merci d'être venus si nombreux à cette conférence. Tout d'abord, un changement de programme à vous annoncer, puisque Yann Leroux, initialement prévu pour débattre ici, s'est décommandé en dernière minute hier. Et Yann, qui est docteur en psychologie et psychanalyste, alors sans dévoiler de secret médical, il a dû accompagner une patiente en urgence à l'hôpital hier. Il se faisait une joie de venir, mais bon, tant pis, ce sera pour une prochaine fois. En attendant, vous pouvez toujours lire son petit bouquin, super intéressant, « Les jeux vidéo, ça rend pas idiot ». Et consulter son blog, Psy et Geek. Voilà, pour aujourd'hui, c'est Thomas Garon qui nous fait l'honneur de nous rejoindre au pied levé, et on l'en remercie vivement. Bonjour Thomas.
Bonjour.
Thomas Garon est psychologue clinicien, diplômé en psychopathologie clinique et en ethnométhodologie à Paris 7. Il est également membre de l'OMNSH, l'Observatoire des mondes numériques et des sciences humaines. Je suis également accompagné de Nicolas Péris. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Nicolas est animateur multimédia à la Petite Bibliothèque Ronde, qui est une bibliothèque associative jeunesse, et ça depuis 5 ans. Il a mis en place une offre éclectique et centrée autour des ordinateurs, notamment avec des ateliers multimédia, et depuis un an et demi, une offre de consoles de jeux, DS et Wii, et des tablettes tactiles avec des iPads et des Galaxy Tab. Nicolas aime aussi jouer aux jeux vidéo.
Oh oui, je tente.
Voilà, donc pour commencer le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, comment les jeux vidéo participent au développement de l'imaginaire des enfants. Donc on va en débattre et je vous invite à réagir à ce qui a été dit à la fin de la séance. Pour commencer, je voudrais vous lire cette citation de Yann Leroux qui nous dit « Jouer à un jeu vidéo, c'est incarner la figure antique du héros ». Qu'est-ce que vous en pensez, Thomas ?
Alors, c'est effectivement un axe majeur en fait du jeu vidéo. Je vais essayer de reprendre sur l'histoire un peu du jeu vidéo, comment il se situe, en quoi c'est à la fois un jeu et c'est autre chose qu'un jeu, c'est plus que ça. Et puis aussi par rapport à la question de l'imaginaire qui nous rassemble aujourd'hui. Alors, quand on parle du héros, on a souvent cet idéal en fait qui est dans la culture depuis extrêmement longtemps, qui est en fait qui est un peu un prototype dont Vladimir Prop a fait le parcours, en tout cas. C'est-à-dire, généralement, du petit enfant, c'est une progression du petit enfant vers l'âge adulte, avec toutes les étapes importantes du développement, qui suit, en fait, la progression de l'enfance à l'adulte dans certaines cultures, notamment la culture occidentale, mais on a des parcours héroïques dans d'autres cultures et qui concernent principalement donc la séparation, la rencontre des pères, la possession d'objets, notamment d'armes par exemple, la confrontation avec la menace qui peut être représentée soit par qui est toujours qui peut être un ancêtre, qui peut être la mère archaïque, le père. Oedipien qu'on va affronter, et puis on va pouvoir soit revenir, mais cette fois différent de quand on est parti, c'est-à-dire devenir un homme, revenir en tant qu'homme, et voilà, on connaît la fin de certains contes, par exemple, c'est mariage de beaucoup d'enfants, etc., etc. Donc ce mythe, cette narration-là, elle est extrêmement présente dans la culture, dans l'inconscient, et notamment dans les œuvres imaginaires, qu'on a depuis l'Antiquité. Les jeux vont en fait reprendre, certains jeux vont reprendre cette structure-là et permettre que le joueur la réalise. Alors, il faut bien un mot anglais réalisé, mais pour le coup, il colle assez bien. C'est-à-dire, c'est la fonction du jeu, c'est de considérer que la réalité ludique est équivalente à la réalité en chair et en os. C'est un peu ça, la scène du jeu, c'est toujours une seconde scène sur laquelle on va pouvoir faire ce qu'on aimerait, ce qu'on n'a pas pu aussi des fois faire véritablement. De ce point de vue-là, dans l'économie du jeu vidéo, partir du moment où surtout vous avez commencé à avoir de la narration, eh bien, les créateurs de jeux ont commencé à adapter cette structure-là progressive, qu'on trouve déjà dans les années 60-70 dans les jeux de rôle, hein, principalement, notamment, et ils vont commencer à l'intégrer dans les scénarios de jeux vidéo. Donc, vous avez deux types de jeux vidéo dans les années, à partir des années 70-80. Vous avez les jeux qui ont été sportifs qui continuent. C'est Pong, c'est Tetris, c'est les jeux de vaisseau, enfin, c'est énormément de jeux, les jeux dits sportifs, en fait, des jeux d'adresse, principalement des jeux d'adresse. Et vous avez en parallèle, mais c'est très peu connu, déjà des jeux de rôle en ligne, ce qu'on appelle les multi-user dungeons, qui sont joués généralement par des étudiants, en fait, parce que c'est sur les universités dans les universités américaines. Et là, c'est les structures typiques du jeu de rôle, c'est-à-dire progression du héros, conquête famille, de la puissance, devenir le plus puissant, triompher en groupe contre les forces du mal, choses qu'on connaît. Donc, de ce point de vue-là, le jeu vidéo, les jeux vidéo, parce qu'il n'y en a pas qu'un, peuvent emprunter dans les structures narratives à cette culture-là, au final, qui, en fait, correspond à la construction d'une identité, notamment, principalement, une identité masculine.
Du coup, Nicolas, cette identité-là, comment tu vas la retrouver dans ces jeux vidéo ? Toi, tu te posais la question aussi à partir de... Enfin, il y a des jeux vidéo très très différents.
Oui, oui. Justement, dans un... Comment on va s'identifier à un jeu sportif ? Comment on va s'identifier à un Pong, à un Tetris ? Enfin, voilà, ce genre de jeu où finalement il n'y a pas de figure identifiable humainement, si je puis dire.
Alors, vous avez, alors ça c'est la question de l'avatar. En fait, souvent, le modèle qu'on a par rapport au jeu vidéo, c'est de considérer souvent le jeu vidéo. En fait, comme le jeu vidéo est un nouveau médium, il faut le rapprocher de quelque chose. Alors, certains vont dire, c'est comme de la bande dessinée, c'est comme du dessin animé, c'est comme du film, donc tout ce qui est dehors de ce qu'on va appeler du médium, du média, notamment du média visuel, avec beaucoup d'insistance sur le côté visuel. Vous avez beaucoup de travaux sur l'analyse filmique, l'esthétique du jeu vidéo, donc avec à la fois le jeu vidéo comme texte, donc la narration, et à la fois le jeu vidéo comme film ou image, donc là l'aspect cinéma. Mais à partir des années 2000, vous avez tout un courant d'études qui dit non, c'est pas le plus important dans le jeu vidéo en fait il faut le prendre comme un jeu, un véritable jeu, et de ce côté-là, on a quelque chose qui vient du côté de l'adresse, en fait, c'est-à-dire de, par exemple, rappelez-vous, le jeu de Chamboultou que vous avez dans les fêtes foraines, hein, c'est-à-dire c'est un jeu où on tire sur des briques, quoi, sur des canettes, et en fait, vous considérez que le jeu vidéo, une partie du jeu vidéo repose sur de l'adresse physique. Or, en fait, ces deux faces, elles sont dans le jeu vidéo, et c'est très très rare, elles sont condensées. Elles peuvent être superposées. Alors des fois, on a des formes pures. Tetris, c'est un puzzle automatisé. C'est une forme assez pure. Et puis, vous avez des formes typiquement strictement narratives. Hein. Également, des jeux vidéo qui sont des jeux d'exploration, par exemple, comme Myst, ce genre de choses. Très, très peu de gameplay au sens véritable. C'est plus un jeu d'énigmes, d'enquête, à la limite, et d'émerveillement. Et en fait, on n'a pas dans l'histoire, on a très peu de structures qui combinent du narratif, de l'imaginaire, ce qu'on va appeler l'imaginaire, et du mécanique physique corporel. Par exemple, il faut penser au catch. Pour en trouver, il faut penser au catch. Le catch, vous avez à la fois du sportif et à la fois derrière un imaginaire. Les gens sont plus que ce qu'ils sont. C'est un peu ça. Mais le jeu vidéo arrive à les combiner. Et en fait, l'identification qui se passe au niveau du jeu vidéo, elle est double. Elle est d'un point de vue physique, en fait, en premier lieu, elle est toujours, enfin pratiquement toujours physique, c'est-à-dire corporelle. Le lien à l'avatar, il est corporel, c'est-à-dire qu'en fait, il est basé sur le fait que quand vous fassiez un mouvement sur la manette, tout d'un coup, ça répond. En fait, c'est une liaison corporelle qui fait qu'on se sent dans le jeu. Donc ça, c'est un type d'immersion ou d'identification qu'on appelle primaire, qui est propre à l'interactivité, qui est vraiment spécifique, qu'on trouve dans d'autres... contexte d'interaction à une machine, mais qui est vraiment là très principal en fait, qu'on a dans la conduite automobile en fait, par exemple. Tout d'un coup, notre corps, on va considérer que les bords de la voiture, il y a une extension des frontières du moi en fait. Et la voiture, eh ben, ça fait partie de nous et on l'a intégré. Mais comme vous avez plein de choses, quand vous avez un outil par exemple, tout ça c'est très, je dirais, corporel, vraiment corporel. Et puis vous avez l'immersion, la narrative, hein, c'est-à-dire en fait de rentrer dans une histoire. C'est-à-dire où les éléments du jeu narratif, donc ça peut être des images, ça peut être du texte, vont vous toucher personnellement et vous allez trouver dans... dans ces images ou dans cette dans ce texte, eh bien quelque chose qui fait écho en vous et où en fait vous allez ce qu'on appelle le trait humain, le trait unique, c'est-à-dire comme il y a quelque chose de commun à vous deux qui fait que ça vous parle. Alors typiquement l'identification, qu'est-ce que c'est? C'est très simple comme mécanisme et le jeu vidéo le réalise parfaitement. L'identification de façon classique, ce que font les enfants et que vous avez déjà à partir de, vous voyez, des très jeunes, hein, dès 1 an et demi, 2 ans, vous avez l'identification. On appelle généralement imitation, par exemple. Où les enfants voient quelqu'un faire quelque chose et ils le copient. Ben, l'identification fonctionne toujours un peu de la même manière. On se met à la place de l'autre, on fait ce qu'il fait, on utilise les mêmes mots que lui, on regarde ce que ça fait, si c'est plaisant, on le récupère en nous, on le devient. On devient lui, sur cette base-là. Ben, le jeu vidéo fait un peu ça, c'est-à-dire que les modèles identificatoires, ça va être les personnages. Comme c'est nous qui allons les animer, on va se prendre pour eux, ou être eux, physiquement. Et en fait, si on a des bonnes gratifications, si c'est intéressant pour nous, etc., alors on va reprendre à l'intérieur de nous et on va considérer que voilà, ça peut devenir faire partie de notre identité. Mais avec des choses beaucoup plus, si vous voulez, avec des choses complexes. Par exemple, si vous voulez, dans le jeu vidéo, vous avez quelque chose en plus qui est la malléabilité. C'est-à-dire que vous pouvez transformer l'objet, ce qu'on appelle l'avatar, c'est-à-dire l'objet, le lieu, en fait, où vous allez habiter, vous pouvez, des fois, le modifier. C'est là où on a une différence entre les jeux vidéo où vous avez, si vous voulez, vous avez un objet fixe, c'est un modèle identificateur. Je prends par exemple dans Metal Gear Solid ou dans des jeux comme Mario, bah, vous ne pouvez pas y toucher. Quoi. Il a une personnalité. Tomb Raider, Lara Croft, elle a une personnalité. Bon, bah voilà, c'est elle. À la limite, ce que font les enfants, c'est qu'après ils se disent je suis Lara Croft, je suis Mario. Et il y a d'autres jeux, comme les jeux de rôle, où en fait vous créez votre personnage, vous pouvez le modifier. Et dans ce cas-là, quand vous le reprenez sur vous, ça va être différent, c'est-à-dire que vous allez pouvoir dire moi je suis lui vraiment. C'est-à-dire ça m'enrichit. Et ça m'enrichit à partir du moment où c'est partagé par les autres. Je vous donne un exemple d'un joueur, par exemple, qui a créé un personnage, qui a eu du succès avec ce personnage-là. Et résultat, c'est ce qu'on appelle le pseudo ou le nom de l'avatar. En fait, il va utiliser le nom de son avatar pour son identité personnelle en ligne.
Parce que là, du coup, on n'a pas des risques, quelque part, pour se faire la réalité, de transfert de choses réelles vers l'imaginaire, de l'imaginaire réel, où est la limite, quand on se sert d'avatar fictionnel pour finalement un personnage qui est réel.
Y a une différence à faire entre la confusion et les transferts, ce qu'on appelle la symbolisation. La confusion, ça veut dire ne pas faire la différence entre les deux, ça veut dire prendre l'un pour l'autre, ça veut dire considérer qu'ils sont équivalents, et dans ce cas-là, ce que ça crée généralement, c'est plus de l'angoisse en fait. Il n'y a pas beaucoup de plaisir hein, dans ce moment-là, c'est plus de l'angoisse parce qu'en fait, ça veut dire que ce qui se passe à l'écran, ça peut vous sauter au visage directement, que ce qu'il y a derrière l'écran, c'est un espace à habiter véritablement, enfin bref, l'imaginaire là. Imaginez au sens un peu psychanalytique, c'est-à-dire le monde interne va pouvoir vous déborder, quoi, tout simplement. Alors que quand c'est un transfert ou une symbolisation, c'est plus maîtrisé déjà. C'est-à-dire c'est vous qui décidez quelque part affectivement de le faire. Et c'est généralement basé sur du plaisir, sur du narcissisme, quand même le narcissisme, ça vous apporte quelque chose, et surtout du partage. Le partage, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un d'autre pour le voir, que ce soit vos copains, que ce soit votre famille, que ce soit la société, on peut parler de la question de, vous voyez, de l'institutionnalisation du jeu vidéo, c'est-à-dire en tant que sport, en tant que sport électronique, montre bien que ça peut avoir une valeur quand c'est partagé. Ça, ouais. ça devient autre chose. Les gens ne jouent pas de la même manière.
Pour rebondir sur cette valeur de partage qui est à l'air centrale dans l'utilisation du jeu vidéo, Nicolas, comment en bibliothèque on se retrouve sur ces valeurs de partage dans un lieu qui, à l'extérieur, peut avoir l'air très individuel, avec des usages individuels?
C'est vrai que le jeu vidéo, souvent, on imagine, l'image fantasmée, je dirais, que les non-joueurs ont du joueur de jeu vidéo, c'est souvent cette personne qui joue frénétiquement sur sa manette de jeu, qui n'a plus de contact avec le monde extérieur, en quelque sorte, qui est enfermée dans sa bulle. Et en fait, quand nous, en bibliothèque, on le voit, quand les enfants commencent à jouer à des jeux vidéo, que ce soit sur des consoles mobiles, donc les DS ou les 3DS, ou sur Wii, ou même sur tablette, ils s'enferment jamais vraiment dans leur bulle.
C'est-à-dire... Pour comprendre pour la Wii, excuse-moi de te couper, mais par exemple pour les DS, c'est des choses qui sont assez personnelles.
Oui, et justement, ils sont motivés aussi pour montrer qu'ils sont capables de réussir une aventure, de réussir à manipuler un personnage et un jeu. Et comme il y a d'autres enfants qui gravitent autour, en fait, il y a une espèce d'échange qui se crée. Et souvent, les joueurs qui sont autour, qui regardent l'enfant jouer, vont vouloir l'aider à progresser dans une zone dans laquelle le joueur n'y arrive pas à passer. Inversement, le joueur qui ne va pas y arriver va demander à son camarade de l'aider à ce moment-là à passer un niveau parce qu'il n'y arrive pas, parce qu'il a essayé plusieurs fois. Et donc il y a toujours une espèce d'échange. Ou même sur des jeux beaucoup plus répétitifs, souvent ça va être de la compétition qui va se créer. C'est-à-dire plutôt que de passer une demi-heure à refaire les mêmes actions encore et encore, tout seul derrière leur écran, ils vont le faire en s'opposant à leurs copains qui sont à côté et qui, à tour de rôle, voilà, ils vont faire une partie chacun pour essayer d'avoir le plus grand score.
Ouais, j'aimerais réagir là-dessus. Moi, je trouve ça, c'est quelque chose d'extrêmement important ce que vous venez de souligner, parce que ça montre bien, si vous voulez, aussi le double statut du jeu vidéo. Pareil, je vais vous donner un exemple. En Chine, dans la terminologie, c'est pas tant jeu vidéo que sport, en fait. Eux, pour eux, c'est vraiment pas un jeu, lié à la lecture ou à l'image. Pour eux, c'est vraiment c'est la compétition, c'est ce genre de choses. Et dans ce que vous évoquez là, il y a la question de l'entraide et aussi la question de la performance. Par exemple, je me demandais, mais est-ce que vous avez, parce que ça, je ne sais pas, ça fait longtemps que moi je travaille plus avec des ados qu'avec des enfants, est-ce qu'il y a des enfants qui, en plein milieu d'un livre, vont demander du vocabulaire?
Oui, quand il y a vraiment des mots qu'ils n'arrivent pas à comprendre avec ce qu'il y a autour de, dans l'histoire, ils vont s'arrêter pour dire ça veut dire quoi, ça et,
Parce que ça, c'est une des choses importantes, c'est ce que fait le dispositif. Après tout, on dit souvent que les joueurs de jeux vidéo, ils sont isolés, comme ça, bloqués, des fois dans le visage figé. Mais vous regardez un lecteur, il est aussi pratiquement dans la même position en général. Alors il y a moins de constante, il y a moins de tension chez un lecteur que sur un joueur de jeu vidéo. Ça peut dépendre. mais généralement, il y a un peu moins de tension. En tout cas, un joueur de Tetris. Un joueur de Tetris, on voit comment il peut être tendu. Et ce qu'il y a dans le jeu vidéo, c'est que pour continuer, si vous voulez, c'est les jeux narratifs, c'est un peu en moitié un livre, en moitié un Simon. Vous savez, le Simon, c'était le jeu où il fallait faire un code, il y avait jaune, rouge, bleu, vert. Bref, il faut faire un code pour avoir la page suivante. Dans un jeu vidéo, d'aventure par exemple, c'est un peu ça. C'est tant que vous n'avez pas fait le bon code, c'est-à-dire en fait la bonne manipulation dans le bon timing manuel, vous n'avez pas accès à la prochaine page, quoi, au prochain chapitre en fait. Et c'est pour ça que les joueurs veulent absolument, des fois, veulent savoir la suite, et donc ils veulent passer le niveau, et c'est presque des fois embêtant de devoir manipuler adroitement la manette pour avoir la suite. Alors ils vont demander aux copains, alors ils vont demander sur Internet, trouver les choses comme ça. Et je pense que c'est très très important de poser cette distinction qui n'est pas si claire que ça, hein, qu'il y a un gradient, hein, entre sport et on va dire histoire, narration, et que bah, peut-être qu'il y a des jeux qui sont purement sportifs, et on peut se demander si ils ont leur place, est-ce qu'ils ont leur place en bibliothèque et pas en ludothèque, voire dans les clubs de sport, dans certains sens. Comme les clubs d'échecs, enfin, je veux dire, est-ce qu'on joue aux échecs dans les bibliothèques?
Disons que les jeux de manipulation, ils vont développer d'autres aspects qui sont plus liés à la psychomotricité du joueur en lui-même. Un Tetris va sans doute plus favoriser l'organisation dans l'espace, et un Pac-Man va lui au contraire favoriser la prise de décision rapide, en quelque sorte.
Ce qui est intéressant aussi dans le jeu vidéo, pour compléter, c'est qu'il y a quand même une trame qui va se retrouver avec un début, un milieu, une fin, des péripéties au milieu, alors qu'elles peuvent être très 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 basiques, hein, dans un Tetris, les péripéties, on les a bien compris. Mais voilà, il y a des niveaux, il y a quelque part une trame avec des niveaux qui vont être de plus en plus complexes, avec voilà, il y a un déroulé et puis à un moment il y a une fin. Et dans beaucoup de jeux vidéo, même s'il y en a maintenant qui sont infinis, et c'est encore une autre histoire. Mais c'est vrai que ça, enfin, à la petite bibliothèque Monde, en tout cas, c'est ce qu'on a observé, c'est que les enfants sont dans la même démarche qu'ils auraient avec un livre ou qu'ils auraient avec un jeu de plateau, par exemple, avec on explique des règles, il y a quelque chose qui va se passer, et voilà. Et à la fin, on arrête, et puis on referme, et puis on va faire autre chose. Voilà. Ça, c'est déjà des mécanismes qui sont intéressants à replacer en parallèle de ce qu'on peut faire avec d'autres supports sur l'idée d'avoir une histoire. Pour rebondir sur la notion de niveau, est-ce qu'on ne peut pas finalement être trop habitué à cette récompense qu'on a? On fait quelque chose, on a une récompense, on a un niveau au-dessus, etc. Qu'on ne va pas avoir dans d'autres supports? Est-ce que ça ne forme pas des habitudes un peu dures à changer?
Bah oui, c'est ce qu'on appelle la gamification, ce qu'on appelle aussi qu'est-ce qui fait que les jeux vidéo captivent autant. C'est vrai qu'ils récompensent énormément en fait les jeux vidéo. Alors, on peut se demander pourquoi.
Le plaisir qu'on en tire aussi vite.
Bah oui, on voit tout de suite le résultat de nos actions, c'est-à-dire qu'il y a une forme de. En anglais on dit empowerment, ça récompense, ça montre tout de suite qu'on est puissant en fait. Mmh. Voilà, moi je dis souvent, de façon provocative, je dis, de toute façon, l'imaginaire, les jeux vidéo, de toute façon, l'imaginaire en général, il sert à compenser une réalité qui est frustrante. C'est à ça que ça sert de base. Alors, plus votre réalité elle est frustrante, hein, de façon provocative, je dis, le jeu c'est pour les impuissants. Mais après, on est tous un moment impuissant, bien sûr. L'idée, c'est l'idée de corriger ce qu'on ne peut pas faire, tout simplement. Alors après, il y a des gens qui veulent beaucoup, mm-hmm. et eux, ils seront souvent frustrés. Et donc, ils trouveront d'autres plus d'intérêt dans...
Même si des choses qu'on peut de toute façon pas faire dans le réel.
Alors, voilà. Mais c'est de toute façon la question de la place de l'idéal, en fait, si vous voulez. C'est la question de la place de l'idéal. Les gens qui ont des grands idéaux et qui ne veulent pas y renoncer, ils vont se tourner vers l'imaginaire pour essayer de compléter cet idéal. Ce sont souvent des idéaux très nobles, très justes, mais un peu trop d'ailleurs, et qui empêchent en fait d'affronter véritablement la dureté de la vie réelle, et donc qui vont aller dans le jeu vidéo ou dans l'imaginaire en général pour qu'au final accomplir cet idéal et en faire partie. Ce qui se passe, c'est que pendant ce temps-là, ils n'habitent pas là où ils habitent, où leur corps est, et qu'ils peuvent y rester plus longtemps et puis louper ce qui pourrait finalement être positif au final dans leur vie de tous les jours. Et ça, voilà, alors, ça dépend des individus, ça dépend de beaucoup d'éléments, de leur histoire, de leur famille, etc. Mais voilà comment, au final, ça peut fonctionner. Les jeux vidéo sont extrêmement fascinants parce que ils peuvent vous donner l'illusion, l'illusion, c'est-à-dire vraiment l'entrée dans le jeu aussi. Enfin, l'illusion, c'est vraiment quelque chose d'assez formidable, mais ils peuvent vous leurrer, vous donner l'illusion que quelque part, bah, oui, vous êtes beau, vous êtes fort, vous êtes puissant, vous avez droit à la princesse, ou etc. Et alors, d'autant plus, évidemment, dans des jeux, et c'est pour ça que dans les jeux en ligne, ça pose d'autant plus de soucis, c'est que d'autant plus, il y a d'autres personnes, en fait. C'est-à-dire que s'il y a une communauté qui, entre guillemets, est là, valide, dit oui. Il y a peu de gens, il y en a, hein, mais il y a peu de gens, si vous voulez, qui passent énormément de temps sur les jeux vidéo solitaires, par exemple, sur des jeux très très longs solitaires. Parce que moi, ils se disent, mais après tout, rien à voir, hein. Après tout, pourquoi je fais ça, je suis très très fort dans le jeu, c'est vrai, mais personne ne le voit, etc. Donc,
on a besoin de reconnaissance.
Un moment, quoi. Et alors, par contre, dès que c'est partagé, alors là, les gens là. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui jouent à des jeux de rôle, ou des jeux vidéo limités, avec toujours soit le même nombre de copains, soit avec plein de monde, et pour avoir finalement une forme de reconnaissance qui, là, pour le coup, n'est pas strictement imaginaire, mais qui peut être aussi de performance. Mm-hmm. Et c'est ce qui se passe actuellement avec les jeux qui proposent pour beaucoup des classements. Mm-hmm. Des classements, des stats, et donc qui s'appuient un peu sur le concret en disant donc c'est vrai que dans la vie, par rapport aux publicités que je vois dans le métro, par rapport à ce que je vois dans la vie, etc., bon, je ne suis pas le meilleur, mais il y a un espace où je peux l'être.
C'est ce qui fait que les constructeurs de consoles actuelles aussi essayent de valoriser ça en développant justement cet aspect autour des réseaux sociaux. Avec toutes les consoles connectées, donc maintenant je me connecte à internet avec ma PS3 ou avec ma Xbox, et tout ce que je vais gagner dans le jeu, toutes les récompenses que je vais avoir vont être diffusées, et donc on peut afficher ces résultats aux yeux du monde entier et se valoriser en quelque sorte de tout ce qu'on fait à travers un jeu.
Oui, c'est la question, alors ça c'est une question sociale, après politique, qui est la question de comment on existe dans une société telle que la nôtre, et que finalement c'est par la performance, et que certains jeux vidéo ont pris la performance. Voilà. Donc pour un, si vous voulez, moi je vois pas mal d'adolescents, pour un adolescent de 13 ans, d'être, je sais pas, le meilleur guerrier de son serveur dans un jeu vidéo en ligne, dans un jeu de rôle en ligne, même si ça dure 2 semaines, parce qu'il faut qu'il soit meilleur, parce que c'est une compétition infernale, vraiment infernale, pour lui, c'est comme un joueur de foot de gagner un match au PSG. Enfin, c'est des choses qui sont évidemment tellement décalage par rapport à ce que vous pouvez avoir, que ça peut vous fasciner, vous faire perdre la tête. Sherry Turkle, qui est écrit en 1984 pour les enfants à l'ordinateur, 1984, déjà sur l'apparition des jeux vidéo et des. Et notamment des jeux vidéo, des jeux de rôle numériques. Déjà, il écrit des gens qui tombent amoureux de leur personnage ou du monde virtuel. Et en 84, c'est pas les graphismes, hein, les jeux vidéo, c'est vraiment pas la question du graphisme. Mais ils tombent amoureux de l'espace virtuel, c'est-à-dire en fait de l'espace imaginaire, et de leur reflet dans cet espace.
Ouais. Vous tombez amoureux des livres.
Bien sûr. Bien sûr, sauf que
avec la vous êtes dépendant. On n'interagissait pas.
Mais et puis il y a une fin, et puis vous êtes dépendant. Mmh. Alors après, ça se déplaçait. Et c'est ça où il y a une jonction entre, si vous voulez, littérature de l'imaginaire et jeux de rôle. C'est que tout d'un coup, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de ce qui fait qu'on voit ici, qui est la question des fans, la question du développement, c'est-à-dire comment. La littérature n'est pas dans les mains du créateur, mais comment les personnes se l'approprient et la développent pour eux, et notamment pour leur fonctionnement psychique, social, culturel. Donc ça, c'est un mouvement global, et que les jeux vidéo complètent ça en disant, finalement, cet espace-là, vous pouvez y être. Et
finalement, on crée quelque chose qui nous correspond personnellement.
Oui, on crée quelque chose, on l'habite en tout cas. Les gens, quand ils, au final, pour habiter plus longtemps le monde de Tolkien, ils faisaient des parties de jeux de rôle, ou ils créaient des nouveaux territoires, ou ils créaient des nouvelles histoires. C'était un moyen pour eux de continuer à habiter cet espace-là. cette volonté d'y être encore, parce que sinon, c'est fini. Alors je vais créer du contenu. Les joueurs de jeux vidéo, ils le font, mais tous ne créent pas de contenu. C'est la différence, c'est pas aussi créatif.
C'est vrai qu'il y a toute une communauté, on voit dans les grands événements culturels, notamment Japan Expo ou Paris Games Week, il y a beaucoup de cosplay. Alors les cosplayers et cosplayeuses, c'est des gens qui vont fabriquer leur propre costume pour ressembler à leur personnage de jeux vidéo ou de film préféré, et qui vont vraiment travailler le costume dans le moindre détail pour être le plus ressemblant possible au personnage. Donc c'est aussi un moyen d'habiter en quelque sorte le héros de manière concrète.
Ah oui, bah là pour le coup c'est vraiment ce qu'on voit déjà chez les enfants quand ils mettent juste le costume de Zorro. Simplement là ils font toute la panoplie, ils travaillent ça, etc. Ce qui pose beaucoup de questions sur au final les modèles identificatoires actuels, c'est-à-dire que on a beaucoup de personnes qui prennent en fait des modèles qui ne sont pas des modèles réels en fait, d'humains en fait. Ça, ça a complètement shooté en fait, de prendre des modèles humains. Parce que la culture, les mass médias, l'image font qu'ils présentent de plus en plus de modèles séduisants ou validés, entre guillemets, dans le fictionnel, que ce soit dans les séries, même je parle de Dr. House ou des choses comme ça, hein, ou dans l'imaginaire, les mangas, là, ou les bandes dessinées. Enfin, chose, et de moins en moins de gens qui veulent ressembler à un homme politique ou à un militaire, des gens comme ça, parce qu'en fait, à la limite, il reste encore quoi? Il reste des stars, quoi. Les stars et les sportifs.
Voilà. Pour revenir à la notion de compétition et de collaboration, Nicolas, tu nous as dit compétition, collaboration. Comment on fait fonctionner tout ça? Comment la compétition aussi et la récompense, ça peut être quelque alors, chose de positif? Comment on peut le tourner
Oui, alors comment nous on peut utiliser le... C'est pas toujours... On n'est pas obligé de mettre les enfants en compétition pour les faire progresser tous ensemble dans un jeu. Nous on fait des animations à la bibliothèque qui s'appellent des heures du compte numérique. Ou par exemple, là, on les fait tous, on va dire, travailler en équipe. Donc ça marche beaucoup avec les jeux point and click. Je ne sais pas si vous voyez tous à quoi correspond le jeu point and click. C'est une espèce de jeu où on progresse écran par écran et il n'y a pas de manipulation à faire. En fait, à l'époque, c'était développé sur les ordinateurs. Donc on pointait le curseur de la souris sur l'objet qu'on voulait utiliser et on cliquait pour utiliser cet objet ou le mettre dans son inventaire. Et après, on combine tous ces éléments pour progresser dans l'histoire. Et donc, avec ces jeux, finalement, où il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas toujours de compétition. Parce que souvent, la compétition, ça va être une compétition d'adresse à celui qui va conduire le plus vite, qui va prendre les meilleurs virages, qui va le mieux assembler les pièces d'un Tetris, ou sur tous les jeux de sport, par exemple. Alors que là, c'est des jeux justement où on peut, s'il n'y a pas de manipulation, on peut progresser tous ensemble. Parce que souvent c'est des énigmes. Pour ouvrir une porte, il faut assembler deux objets. Bon, faut trouver ces deux objets dans l'écran, faut trouver comment ils s'assemblent. Parfois, il faut assembler d'autres objets pour trouver un troisième qu'on va pouvoir assembler, un quatrième. Enfin voilà, c'est. Et souvent tout seul, on peut bloquer sur ce genre de jeu. On va passer des heures et des heures et. Peut-être regarder les solutions pour essayer de trouver comment passer le niveau. Alors qu'en fait, à plusieurs, tout de suite, il y a une émulation qui se crée avec les enfants. Et du coup, on progresse beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement. Et en même temps, les enfants aiment cette manière d'être tous ensemble et de progresser comme ça dans un jeu, dans une histoire, sans même toucher la manette ou la tablette.
Ouais, quand tu parles d'histoire, pour le coup, là, il y a une vraie histoire, j'allais dire.
Voilà, l'idée, c'est vraiment de suivre une histoire du début à la fin. Avec un début, un milieu, une fin, des péripéties, des obstacles, des énigmes à résoudre. Et donc, chaque énigme réussie va permettre de progresser dans l'histoire, donc d'avoir la suite de l'histoire. Donc on est en fait récompensé par l'histoire en elle-même.
Mais ce qui est intéressant aussi à observer, c'est qu'il y a des moments de dialogue et de narration du coup du texte à lire, et que là on se retrouve avec des phénomènes où les enfants, parce qu'ils attendent le jeu qui va apparaître derrière, se bousculent pour lire les dialogues, ce qui est quand même un phénomène plutôt intéressant à observer chez des enfants de 8-10 ans. Qui se bousculent pour aller lire devant tout le monde, pour faire avancer le jeu, parce qu'on a besoin de ça pour continuer.
C'est vrai que c'est totalement différent du joueur solitaire, qui, au contraire, veut tout de suite jouer sans prendre le temps de regarder l'histoire, de lire ce qu'il y a à l'écran. On voit ça très régulièrement. Nous, on le voit tous les jours, par exemple, sur les DS ou les tablettes. Ils commencent le jeu. Il y a la scène d'introduction avec des dialogues écrits, parfois sonorisés, parfois pas. Et là, la tendance, c'est j'appuie rapidement pour faire passer tous ces dialogues, parce que pour moi, c'est une perte de temps, pour arriver au moment où il faut manipuler le personnage. Et là, souvent, il se retourne en disant, bon, bah, qu'est-ce qu'il faut faire ? Et donc là, c'est aussi un travail justement de leur faire comprendre que le jeu vidéo, c'est pas uniquement de la manipulation, c'est aussi une histoire. Et que sans cette histoire, on ne prend pas de plaisir à manipuler le personnage.
Oui, puisque du coup, la manipulation, c'est toi qui l'as fait. Donc, voilà. Il n'y a plus ce côté manipulation. Il y a juste
et du coup, ça reste que de la manipulation. Et quand on a un personnage, finalement, qu'est-ce que ce personnage, il va... Quel est son but ? Voilà, j'incarne Mario, mais c'est quoi le but de Mario ? Bon, si on ne sait pas qu'il doit arriver au bout du niveau pour sauver la princesse, finalement, est-ce qu'on aurait autant envie de manipuler, de jouer avec ?
Ou est-ce que c'est vraiment ça l'intérêt du jeu ? Est-ce que c'est vraiment d'aller chercher la princesse ? Est-ce que c'est pas de passer du temps à jouer ? Est-ce que c'est pas le voyage qui est plus intéressant que l'arrivée ?
L'arrivée, c'est la récompense. Et c'est la récompense d'avoir réussi un voyage semé d'embûches, justement, et d'avoir réussi à passer toutes ces embûches de la fin. Je sais pas ce qu'en pense Thomas.
C'est une question extrêmement importante, en fait, ça, parce que ça pose la question des logiques, en fait, du jeu vidéo et de ce que les joueurs en ont compris rapidement. Et c'est aussi une question économique. Par exemple, si vous voulez vendre... moi, je pense que si vous voulez vendre un jeu vidéo dans le monde entier, il faut le faire simple. Donc, résultat, il va falloir que ce ne soit pas dépendant de la culture locale. Pour le dire simplement, un jeu de combat, ça se vend beaucoup mieux qu'un jeu d'aventure gabonais. Tout simplement parce que pour faire un jeu de combat, où qu'on soit, tout le monde, c'est universel, le combat, donc ça va, et c'est que des touches. Alors qu'un jeu d'aventure centré culturellement, il faut connaître la culture pour pouvoir réussir. Et alors soit vous avez des jeux comme de culture, on va dire, occidentale qui sont assez larges, mais sinon ça peut être même vraiment très très large, donc on nivelle par le bas pour en vendre plus. Ce qui est dommage. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est est-ce qu'on a besoin de cette culture ou de cette... De quoi on a besoin pour pouvoir réussir le jeu ? Là aussi, par exemple, il y a un événement par l'âge. Effectivement, il y a certains jeux où, pas sur la compétence technique, ni sur le contenu des graphismes, par exemple, mais vous pouvez, si vous le souhaitez, faire des énigmes, on va dire des énigmes, ou alors il faut une culture, par exemple, quel est le tableau le plus célèbre de Léonard de Vinci. Ça peut, on peut mettre ça comme énigme dans un jeu d'aventure où il y a un moment, il y a une scène dans un musée. Hein, on peut mettre cette énigme-là. Et ça, il faut avoir la culture pour pouvoir répondre à cette question. Mais les éditeurs de jeux ne vont pas faire ça, ne vont pas mettre ça, parce qu'ils se disent, un, on se prive de ceux qui n'ont pas cette culture-là, qui ne connaissent pas les marques ainsi, et deux, de ceux qui n'ont pas l'âge de connaître. Et donc, résultat, au final, le problème, c'est que les jeux vidéo ne vont pas forcément, ils développent beaucoup d'autres choses, mais ils ne vont pas forcément demander un apprentissage de la culture, une maîtrise de la culture, pour des raisons purement économiques. Alors les joueurs de jeux vidéo, par rapport à la question de lire ou pas lire, c'est comme un peu, si vous voulez, comme une clé avec une porte, quoi. C'est-à-dire, ils peuvent soit regarder la clé, regarder la porte, et se dire comment on ouvre, et le faire une fois, ils ont la connaissance, soit ils essayent. Et alors ils vont essayer, parce qu'ils savent qu'à un moment, ça va... Alors, ce qui est vrai avec la manipulation, hein, ouais. Mais les énigmes, par exemple, si vous mettez trois choix, Vous mettez quel est le tableau le plus connu de Léonard de Vinci. Soit je mets trois choix, soit je mets rien du tout, tu te débrouilles. S'il y a trois choix, bah, les joueurs ils vont essayer les trois choix. Et alors, peu importe, ils ne voient pas du tout à quoi ça correspond, ils ne retiennent pas, ils essayent ABC. Quoi. Et ça marche, il y en a un qui marche, comme deux. Voilà. Par contre, si il n'y a pas de choix et il faut connaître, sinon ça ne marche pas, ce qui est complètement anti-commercial. Les éditeurs, après, ils vont avoir. Des lettres de plainte des parents, voire des adolescents eux-mêmes, des enfants eux-mêmes. Ah, comment ça, il faut connaître ça. Et bah, voilà, là, c'est obligé. Bah, c'est pareil pour le texte d'introduction. Si on peut le zapper, et on n'en a pas besoin, eh ben, zappons-le. Le problème, c'est de faire des jeux où on peut se passer de ça. Et après, par contre, dans la question de l'obligation, moi, je ne conseille pas du tout, ni aux parents, ni à personne, d'aider. C'est-à-dire de zapper, de court-circuiter la culture et l'apprentissage pour y arriver. Et on le voit, plein de choses, ça, le court-circuitage. Il est dans la demande à l'autre, il est dans Internet, il est dans... Voilà, on voit que les gens, ils ne luttent même pas à essayer de comprendre une énigme, mais finalement, ils vont sur Internet trouver la réponse.
J'ai un contre-exemple en tête qui me vient là tout de suite. Professeur Letton sur DS, qui a été une meilleure vente pendant plusieurs mois. Nicolas, tu me trompes, mais
ça l'est
peut-être encore toujours. Et alors là, pour le coup, c'était un jeu avec que des énigmes, c'est on ne pouvait bien. Pas du tout les passer. Ah, bah, il y en a même qui étaient super durs.
Bah, ouais,
moi, alors comment on explique ça, du coup?
Après, je fais un choix. Là, je ne connaissais pas pourquoi ça marche, mais je crois qu'il est assez bien fait et qu'il y a une bonne com, et puis que les parents trouvent ça produit culturel, valeur ajoutée peut-être.
Puis c'est souvent des énigmes, ça va être l'énigme des allumettes. Voilà, on a six allumettes qui forment un triangle, on doit former quatre carrés avec.
C'est des énigmes mathématiques.
Oui, voilà, c'est souvent déjà des énigmes connues. Est reconnu et pas uniquement j'ai envie de dire vidéoludique, enfin du moins virtuel. Donc il y a toujours la possibilité de jouer à plusieurs, d'aider, de s'entraider. Et c'est peut-être pour ça aussi que le jeu, que les parents apprécient beaucoup le jeu, c'est parce que c'est des énigmes où finalement c'est la logique qui prime sur la manipulation, encore une fois. Et donc à partir de ce moment-là, eux-mêmes ils peuvent jouer sans avoir forcément sans connaître la manipulation de la console.
Je ne vais pas revenir parce que l'heure tourne. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle?
C'est la première qui est la plus difficile. Ouais. Madame devant.
Je répondrai qu'on va faire les mêmes choix qu'on faisait avec les livres. Moi, je me couperai le bras gauche pour mettre des livres de princesses avec des paillettes sur la couverture, personnellement. Je pense qu'on va faire exactement le même choix, c'est-à-dire qu'un bon jeu, c'est un bon jeu pour les filles et pour les garçons. Et qu'il n'y a pas forcément des jeux pour garçons et des jeux pour filles. Et même, je serais tentée de dire que ce n'est pas forcément un bon jeu, si c'est un jeu identifié pour l'un ou pour l'autre. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les garçons.
Oui, il n'y a pas de jeu. Pour moi, le terme jeu de garçon et jeu de fille, c'est comme les pages d'un catalogue de jouets où on va avoir les pages bleues avec les G.I. Joe et les petits soldats pour les garçons et les pages roses avec les poupées pour les filles. C'est mettre en place un genre alors qu'en fait, les filles et les garçons, ils vont aimer la même chose. Il y a sans doute beaucoup plus de garçons qui jouent à Tomb Raider que de filles, alors qu'à l'époque, la critique disait oui, on fait un personnage féminin pour que les filles puissent s'identifier à elle. Les filles s'identifient pas forcément au personnage de Lara Croft.
Non, je pense pas. Je pense que le Lara Croft, c'est un jeu de garçon, Nicolas.
Oui, c'est sûrement pour le coup, c'est comment un jeu de garçon, ou dans des jeux comme World of Warcraft, où souvent on a des elfes, des trolls, des personnages puissants. Bah là aussi, on a des filles qui vont jouer, ou même à des jeux de soldats. Il y a des filles, il y a des équipes de filles, et là, je peux vous garantir qu'elles sont beaucoup plus.
Peut-être que c'est nous qui nous mettons des barrières à se dire c'est des jeux oui. de conquête ou des jeux de guerre, et donc c'est pas fait pour les filles. C'est peut-être là que les barrières vont se les faire enlever.
C'est pas ça quand c'était sur pour vendre à des gamines qui vendaient.
Ah non, pas ça, madame, parce que ça, c'est pour les garçons.
Jouer avec elles, dans ces cas-là. Montrez-leur que c'est.
Pas la manette.
Non, mais je crois que c'est surtout ça, c'est la question des discours. Eux, ils ont elles et eux ou des représentations qui sont validées dans la plupart des cas. Enfin, c'est des représentations majoritaires, hein, dites dominantes, quand on en dise, et qu'elles ont trop peu de contre-exemples dans la réalité pour venir contrer ces représentations-là. C'est effectivement quand elles verront une femme une fille à qui elles peuvent s'identifier qui jouera un jeu de garçon, qu'elles se diront et que ce sera pas que celle-ci ne sera pas ni stigmatisée ni discriminée, qu'elles se diront effectivement je peux m'autoriser en plein jour à jouer à ce jeu-là. Tant qu'elles n'ont pas d'exemple, cela n'arrivera pas. Donc la question c'est plutôt comment dans l'animation déconstruire ces représentations, et la meilleure façon de la déconstruire, c'est tout simplement de réaliser l'action, c'est-à-dire simplement que des filles jouent à des jeux vidéo, et que des garçons jouent à des jeux vidéo, de filles aussi. Enfin, je veux dire, par exemple, si on prend les Sims, on trouve pour le coup, jusqu'à un certain âge, plus ou moins, c'est kiff-kiff, autant de garçons que de filles, plus ou moins. À partir de 11 ans, 12 ans, à partir du moment où en fait, les rôles masculins, enfin les genres s'affirment un peu, là moins. Mmh. Là, moins. Les filles continuent, les garçons, moins. Mmh. Jusqu'à la puberté.
Et après, dans la population générale, on s'aperçoit qu'il y a plus de 50% des joueurs qui sont en fait des joueuses, donc des jeux vidéo de filles, il doit y en avoir.
Ouais, non, mais en même temps, voilà, on sait que les femmes ne jouent pas au même jeu que les hommes, on sait qu'elles, même dans un même jeu, elles n'y jouent pas exactement de la même manière, et après, on sait qu'il y a toujours des contre-exemples. Moi, je connaissais une médecin psychiatre de 50 ans qui, tous les soirs, faisait des Call of Duty. Quoi.
Moi, je suis assez fan de Age of Empires. Je détruis 3 civilisations en rentrant du travail, ça va vachement bien.
Mais moi je fais beaucoup de discussions, de débats avec les ados, et on voit qu'en fait ils sont hyper influencés par des représentations collectives dominantes, quoi. Entre d'autres termes, ils sont hyper réactifs, quoi. Et ils disent, ah non, mais de toute façon, la guerre c'est pas pour les femmes. Et en même temps, on peut pas leur dire, c'est faux, parce que dans toutes les représentations, les femmes sont exclues de la guerre. Donc les garçons disent, la guerre c'est pour les hommes. Et les filles, elles disent, la guerre, c'est pour les hommes. Donc, voilà. Après, c'est effectivement quand elles verront des filles jouer à des jeux de guerre.
Mais de manière générale, je pense qu'il faut que... Enfin, je parle en bibliothèque. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à ce que les équipes jouent avec les enfants, montrent d'autres choses. Effectivement, nous, on est une équipe mixte. Les garçons et filles jouent aux jeux vidéo avec les enfants. C'est vrai que ça a permis à des filles de se confronter aussi aux garçons, ce qui n'était pas forcément... Enfin voilà, ça permet aussi un peu plus de mélange.
De mixer, oui, les pratiques de jeu et le choix dans les genres eux-mêmes.
Ça fait réfléchir les garçons aussi. Quand on a des tournois de Mario Kart, c'est les filles qui gagnent. Ouais. Ça remet aussi...
Ça les remet à leur place.
Ça pose des questions.
Voilà. Inversement, on peut avoir aussi des garçons qui ont envie de jouer à Cooking Mama ou à des jeux de maquillage. Comme les filles à côté peuvent préférer jouer à des jeux de voiture, des jeux de course ou des jeux de tir.
Voilà, ça pour dire qu'on se bride peut-être plus que ce que feraient les enfants spontanément.
C'est plus ces 5 dernières années.
Madame disait qu'il y avait beaucoup de jeux grand public ces 5 dernières années, comme le sport, Guitar Hero.
Guitar Hero,
Ouais. Ça démocratise. Le jeu vidéo se démocratise, oui. Alors je vais vous dire pourquoi il se démocratise, outre la question. Il y a de ça, il y a le fait que les générations. Maintenant, le jeu vidéo, il a quand même 40 ans, donc ça va. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il soit totalement mature, mais il a une quarantaine d'années. L'autre chose, c'est que la grammaire, par exemple, du jeu vidéo a changé. C'est-à-dire que quand même, et c'est ça qu'apporte la Wii et tous les jeux, en fait, il réintroduit une grammaire dite naturelle. C'est-à-dire qu'avant, pour faire un coup droit à un jeu de tennis, c'était X, ou B, ou bouton bleu. Là, maintenant, c'est... Ça, les parents le connaissent, quoi. Tout le monde connaît. Donc, à moi, en fait, parce que beaucoup de parents, en fait, il y a une fracture numérique sur le jeu vidéo qui fait, c'est je connais pas, donc je maîtrise pas, donc je comprends rien, et c'est vrai que c'est pas simple, et donc ça freinait, en fait. Et l'autre chose, c'est la représentation du jeu, bah, c'est simple, même dans les publicités, en fait. C'est-à-dire que pour les jeux, les jeux qui continuent à avoir une grammaire complexe, comme les jeux de tir, etc., où on vous montre l'écran, on montre le contenu du jeu. Pour les jeux familiaux où en fait il y a une grammaire naturelle, on vous montre les gens en train de jouer. C'est là le décalage qui se passe là. Ben, tout simplement parce que si on vous montre un joueur de FPS ou un joueur de Tetris, c'est pas très sexy. Quand on vous montre une famille en train de jouer, ça a l'air intéressant. Mais pareil, quand on fait de la pub pour un livre, si on fait une pub pour un livre, on ne montre pas le joueur, le lecteur. On ne montre jamais la personne. Oh, regardez comme il a l'air bien, et on voit le lecteur ravi. Non, on fait de la pub autrement. Même.
Nicolas, tu voulais rajouter quelque chose sur
l'intergénération? Ah oui, sur le. Bah, il y a tout l'acte de transmission aussi. Justement, comme on l'a dit, le jeu vidéo est né il y a 40 ans, donc aujourd'hui, les premiers joueurs enfants sont devenus des adultes et sont devenus des parents. Donc. Moi qui fais souvent des expositions autour du jeu vidéo, notamment les jeux rétro, on voit des parents justement qui sont de plus en plus fiers de montrer à leurs enfants que ça c'est le jeu auquel ils jouaient quand ils étaient petits. Et du coup, bah voilà, il y a une transmission qui va se faire sur des jeux, sur d'anciens jeux. Et aujourd'hui, c'est pour les jeux récents. Nous on voit ça à la bibliothèque, ça va être la tendance inverse, c'est-à-dire qu'on essaye de valoriser justement ce côté intergénérationnel, et cette fois ça va être plus les enfants qui vont montrer à leurs parents comment ils jouent, et les parents vont aimer jouer aussi avec eux, et on a essayé justement de faire des sessions uniquement pour les parents. Et en fait, les parents, c'est juste des enfants qui sont plus grands.
C'est en fait, au début, les parents n'osaient pas trop jouer avec leurs enfants parce qu'ils allaient forcément se prendre une pilée. Et du coup, on a mis en place des ateliers juste pour les parents, sans présence d'enfants, interdit. Ah. Ce qui permet aux parents de découvrir l'outil sans avoir la pression des enfants et juste d'y prendre du plaisir, en fait. Et ça, c'est un plaisir qu'ils vont pouvoir partager avec leurs enfants. Du coup, quand on organise maintenant des tournois par enfant, il y a effectivement des mamans qui sont super accros et qui viennent jouer avec leurs enfants et qui s'aperçoivent du coup que c'est plus quelque chose qui leur était, enfin, où elles étaient un peu porte-monnaie et puis c'était tout, mais c'est quelque chose autour duquel ils vont pouvoir partager, ça leur fait des valeurs communes, des moments partagés, des moments passés ensemble, et ça c'était assez important, où il y avait un échange, où il y avait des souvenirs du coup de ces moments-là, donc ça avait un intérêt aussi.
Je me souviens d'un bibliothécaire qui m'avait dit on a les consoles en consultation, et au niveau du bruit, le problème, c'est pas les enfants, c'est les parents. Il y avait un père qui jouait avec son fils et un jeu de foot, et le père faisait plus de bruit que l'enfant qui était à côté. Voilà, c'est.
Est-ce qu'il y a une autre question ? Une dernière question ?
Une toute dernière, on va répondre vite.
Alors, moi, j'étais venue en tant que grand-mère et avec vraiment des a priori complètement négatifs sur les jeux vidéo, en dehors du livre Point de Salut. Bon, vous m'avez rassurée, en tout cas, vous m'avez à la fois inquiétée et rassurée. Je commence par être rassurée par les mots que vous avez employés sur partage, entraide dans les bibliothèques, si j'ai bien compris. Et que se passe-t-il lorsque l'enfant, un des petits enfants, se trouve tout seul devant son jeu vidéo? Maintenant, l'inquiétude que j'ai, c'est les mots que j'ai entendus, que je redoutais, c'était le mot de compétition. Vous avez parlé de la Chine, mais je pense qu'en France, on a toute la même chose. Et que sera notre société si elle est basée ou si elle va se construire avec des enfants élevés dans la compétition? Alors là, il faut plutôt déjà l'école comme ça. C'est un grand regret. La biologie peut-être, mais l'école aura besoin d'être fondée. Là. Quand on voit le bloc des compétences de l'école. Alors voilà, je suis donc rassurée parce que j'ai entendu dire sur le côté. J'ignorais complètement, je ne sais même pas, je crois que j'en connais rien de rien. Et ça me rassure. Mais ça se passe en bibliothèque. Je m'inquiète pour le gosse qui trouve tout seul dans sa chambre et qui parle quoi. Qui parle pas ou qui parle à des êtres. Alors, vous dites que le lecteur est aussi concentré. Je ne vois pas du tout la comparaison entre la concentration du lecteur sur son livre, qui ne veut pas non plus peut-être parler à ses parents à ce moment-là, et le gosse qui est devant son écran. Complètement dans un autre monde. Là. Il faudra bien être habitué à ce moment-là.
Oui, je crois que c'est cette question-là en fait qui se pose. Je vais essayer de répondre rapidement. La question de la compétition et de l'entraide, en fait, il y en a pour tout. Hein. Football, par exemple, il y a de la compétition, vous détestez les adversaires, et il y a de l'entraide avec vos partenaires. Donc, c'est toujours la question là d'un dispositif et de ce qui va véhiculer. Mais dès que vous avez ce qu'on appelle des côtés agonistes, c'est-à-dire la compétition, et les jeux, la plupart des jeux ont cette dimension-là, parce que c'est ce qui fait du challenge, en fait, c'est ce qui fait du défi, c'est dans la compétition intermédiaire, et c'est inscrit tant dans la culture que également dans la psychologie, notamment pour le coup pour les garçons dans la culture, d'une compétition et d'une rivalité. Qui est inscrite et qui va, plutôt que se passer dans la réalité en chair et en os, être dans des lieux dédiés à ça, qui sont le sport et le jeu. Hein, quand même, on peut être très content que finalement les gens ne se battent plus comme ça pour un rien dans la rue, à tout bout de champ, juste pour prouver leur virilité. Ça arrive encore, bien sûr, plus qu'on pense, ça arrive, quoi. Mais il y a eu des époques où c'était, on pouvait en mourir, rappelez-vous des duels, rappelez-vous des choses. Et beaucoup de gens le font, en fait, dans les jeux vidéo ou dans le sport. Après, au niveau social, quelles conséquences ça a là, c'est une question politique qui nous emmènerait beaucoup trop loin. Ça s'appelle aussi une rivalité, c'est-à-dire si nous on ne fait pas, c'est les autres qui vont nous manger. Des choses comme ça. Parler de la Chine, la France, c'est des compétitions internationales. Et sur la question du seul, alors faites attention à ça, parce que de toute façon, il y a des périodes où les enfants, les adolescents aiment bien être solitaires. Il faut pouvoir le respecter, ça donne du temps. C'est pas parce qu'ils sont seuls qu'ils sont vraiment seuls avec les jeux en ligne. C'est-à-dire que, effectivement, corporellement, ils sont seuls, mais en même temps, ils sont en train d'échanger avec des copains en ligne qui sont des copains de classe. Ils sont souvent des copains qu'ils connaissent, en fait. Donc, ils sont seuls sans être seuls, ce qui pose aussi beaucoup de questions, évidemment. À partir de quand ça devient inquiétant, pour le coup, c'est surtout quand la personne ne fait plus rien d'autre à côté que ça. Et quand, si on lui demande à part ça, comment ça va, on se rend compte qu'à part ça, il n'y a pas grand-chose. C'est-à-dire que le jeu vidéo, comme toute chose, il faut que ça soit varié. Quoi.
Avec modération,
que ça soit varié.
Mais comme tout.
Encore une fois, je prends toujours cet exemple-là, mais les joueurs d'échecs ne sont pas hyper connus pour être des gens très épanouis, très sympas, et qui font forcément les grandes choses dans leur vie. Mais ils jouent très bien aux échecs.
Moi, j'avais un complément de réponse, c'est que je pense que les jeux vidéo, c'est aussi un reflet de la société, que s'il y a beaucoup de jeux de compétition, c'est parce que c'est ce que valorise la société. Et c'est aussi ce qu'on veut mettre en valeur. Et voilà, et si la société met en valeur le fait de faire des super bons gâteaux, tout le monde s'y mettrait, je pense. Enfin, pour prendre un exemple qui n'a rien à voir, je pense que c'est très lié à ça aussi.
C'est demander à une jeune fille qui tu préfères, avec qui tu te vois avoir des relations sentimentales entre Rambo et Einstein. Les garçons s'imaginent que la fille préférait Rambo à Einstein. Donc ils se disent, peut-être que c'est mieux d'être Rambo qu'Einstein. C'est complètement fou, mais ils pensent ça. Et l'autre chose, et je pense que ça c'est important, plus le monde actuel est désenchanté, et il est, plus il y aura de l'imaginaire. C'est-à-dire, à la fois l'imaginaire qui peut être fait pour réenchanter le monde, et ça c'est intéressant, soit comme fuite. Et ça on connaît cette histoire-là depuis très très longtemps, la fuite dans l'imaginaire. Ça c'est
Madame Bovary.
L'escapisme.
Juste une toute dernière chose. Citez-nous juste un jeu vidéo que vous aimez bien, conseiller à notre public. Et on finit là-dessus.
Moi, un des derniers que j'ai découvert, c'est Journée. Une Journée qui est sortie sur le PlayStation Store. C'est le magasin en ligne de la console de Sony. Et c'est un jeu où on incarne un personnage qu'on ne connaît pas dans une histoire totalement sans texte. Mais en fait, tout est intuitif. C'est-à-dire qu'on arrive, on a ce personnage qui se réveille dans le désert. Il n'y a rien autour, sauf une ruine. Donc on va aller vers cette ruine. Et là, on va avoir une montagne au fond. Et on sait d'un seul coup qu'il faut aller vers cette montagne. Et donc tout le jeu va nous amener... ça va être un passage de l'enfer au paradis, en quelque sorte. Et on va progresser vers cette montagne, vers cet objectif, jusqu'à des séquences où le personnage va monter sur la montagne et dans une grande tempête. Il avance de moins en moins vite, mais nous, on va être bloqués sur notre manette parce que c'est nous, il faut qu'on y arrive. Et c'est un jeu qui est très très prenant pour ça. Et,
Nicolas, je te coupe, sinon voilà, tu es encore dans deux heures.
Voilà.
Moi, j'en ai deux rapidement. The Walking Dead, qui est un jeu de point-and-click. Qui est très bien au niveau scénaristique. C'est un bon point and click qui vient de sortir avec. En fait, les choix que vous faites influencent la suite de l'histoire. C'est pas un jeu de tir, là, c'est vraiment un point and click très bien construit scénaristiquement. Et l'autre, c'est pas intéressant, c'est quelque chose qu'on n'a pas pu développer, c'est l'adaptation en jeu vidéo d'un jeu de plateau. Alors, il me semble que tout l'avenir des jeux vidéo et de tout le reste, c'est leur transfert dans. Les autres médias.
Absolument. On va finir là-dessus. Et pour plus d'informations, vous pouvez à la fois lire le livre dont je vous ai parlé, aller voir ce que dit Thomas Gaon sur Internet, et venir nous rencontrer à la petite bibliothèque Monde, soit via notre site Internet, soit au petit festival de l'imaginaire, qui est le petit frère de ce festival Zone Franche, qui va connaître sa première édition au mois d'avril prochain, toujours autour des sorcières. Il y aura des éditeurs numériques, il y aura des éditeurs papier. Voilà, ce sera l'occasion de reparler de tout ça. Merci encore à vous.
Merci.